Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne. Savez-vous que l'Union européenne est la première puissance commerciale au monde, devant la Chine et même les États-Unis? Les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde représentent près de 4000 milliards d'euros. Pour une grande partie, l'Union européenne dispose d'une compétence quasi exclusive en matière de commerce international, ce qui lui permet d'agir d'une seule voix et au nom de 450 millions d'Européens. L'Union est ainsi en mesure de négocier d'égal à égal avec les États-Unis ou la Chine et si besoin même de prendre des mesures de rétorsion. Mais le commerce extérieur de l'Union fait tout de même régulièrement l'objet de polémiques ou du moins de débats relatifs aux conditions de concurrence, aux conditions environnementales, de travail dans les pays partenaires. La crise du Covid a aussi révélé aux Européens notre dépendance sur certains produits, notamment les produits sanitaires, mais aussi à l'égard des semi-conducteurs. Depuis, la référence à la souveraineté européenne est de plus en plus présente dans les discours politiques. Mais comment ce concept de souveraineté se traduit-il aujourd'hui dans la politique commerciale européenne? L'Union européenne dispose-t-elle des outils pour lutter contre une concurrence déloyale des États-Unis, par exemple, matérialisée par l'Inflation Reduction Act, ou pour faire face à une politique commerciale agressive de la Chine? Pour mieux comprendre la politique commerciale de l'Union européenne, nous sommes heureux de recevoir la députée européenne Marie-Pierre Védrenne, vice-présidente de la Commission parlementaire du commerce international au Parlement européen. Bonjour Madame Védrenne.
Bonjour.
Alors, merci de nous consacrer un peu de votre temps, dont on sait qu'il est compté durant les sessions plénières à Strasbourg. Nous avions déjà eu la chance de vous avoir à notre micro au tout début de votre mandat, mais c'était avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, et on l'imagine bien, ces éléments singulièrement bouleversés les choix et certaines stratégies politiques de l'Union européenne en matière énergétique, environnementale et de commerce international. Alors Marie-Pierre Védrenne, vous êtes aussi coprésidente avec Valérie Ayer de la délégation Europe Ensemble au Parlement européen, qui regroupe les 22 députés européens proches de la majorité présidentielle élue en 2019. Alors à ce titre, j'aimerais vous poser une petite question sur la décision de Pascal Durand, ancien d'Europe Écologie Les Verts, je crois même qu'il en a été le secrétaire général, mais élu sur la liste Renaissance en 2019 et qui a décidé de quitter le groupe Renew, donc le groupe auquel appartient Europe Ensemble, pour rejoindre le groupe SED, notamment en raison de désaccords sur le maintien au sein du groupe d'une Suédoise dont le parti politique participe à une coalition soutenue par l'extrême droite. Comment expliquez-vous le maintien dans votre famille politique de cette députée, Karine Karlsbro, alors que votre groupe Renew se présente comme un des opposants les plus farouches à l'extrême droite en Europe?
C'est vrai que Pascal Durand a fait un choix. Comme tout membre de la délégation, il est libre. Pour nous, dont acte. C'est vrai que c'est le premier député européen français qui quitte notre groupe. Vous avez évoqué le contexte dans lequel ça s'est passé. Pascal, c'est quelqu'un que, bien évidemment, je vais continuer de croiser dans les couloirs du Parlement européen, avec laquelle j'ai eu plaisir et je continuerai avec plaisir de travailler, parce qu'on partage des ambitions communes et le combat contre l'extrême droite, on le mènera et on continuera de le mener. Effectivement, la Suède a eu des élections et un parti membre de notre groupe politique est effectivement dans cette coalition. Nous avons eu des discussions très tendues, très difficiles dans notre groupe politique où la délégation française, l'entièreté, a demandé l'exclusion à la fois du parti dans toutes nos activités de groupe et à la fois l'exclusion de notre collègue. Ça n'a pas été la décision majoritaire de notre groupe. Sur le premier point, oui. C'est-à-dire que son parti ne sera plus du tout invité à aucun événement de notre groupe politique. Parce que c'est vrai que, plus la complexité, les partis, les groupes... Voilà.
En gros, vous faites un travail interparti.
Exactement. Mais en tout cas, la décision a été très claire là, de l'ensemble du groupe politique que le Parti Libertana, à laquelle appartient Karine Kindreuse, n'est plus invité. Par exemple, aujourd'hui, il y a un pré-sommet de notre famille politique avant le Conseil européen. Ils n'en sont plus membres. Quand il y a eu, par exemple, préparations en Suède, nous n'y avons pas été.
Mais la Suède qui va quand même présider le Conseil de l'Union européenne bientôt.
Oui, mais là, c'est les Suédois qui ont fait un choix. C'est pas moi, française, qui vais faire la morale aux Suédois. Il y a eu des élections démocratiques dans leur pays. On respecte ces élections. Pour autant, on continuera à se battre contre toutes les formes d'extrémisme et contre les populistes. C'est pour ça que, notamment, la délégation, nous avons organisé un colloque sur la montée des extrêmes, où d'ailleurs, des membres du groupe ID étaient présents à ce colloque. Donc, vous voyez, ils avaient la liberté de venir. Où on a proposé un plan d'action pour continuer à lutter contre l'extrême droite. Et je pense qu'on y reviendra dans les sujets du moment que vous avez déjà évoqué dans votre introduction, parce que pour lutter aussi contre la montée des populistes, il faut apporter des réponses concrètes aux aspirations des citoyens européens, notamment sur le besoin de protection que doit avoir l'Union européenne. Donc on a travaillé sur tous ces éléments-là, on a soumis notre plan d'action à des intervenants extérieurs, donc le combat contre l'extrême droite, il a déjà continué et continuera.
Alors, je ne sais pas si Pascal Durand regrette déjà son choix, mais la session a aussi débuté avec une affaire grave. Ce week-end, le journal Le Soir, donc le journal belge, a révélé des soupçons de corruption au Parlement européen avec en lien le Qatar et qui touche notamment la vice-présidente, membre du groupe SED du Parlement européen, Eva Kaili, et qui a donc été écrouée à Bruxelles. Quelle réaction a été celle déjà de votre groupe et comment vous voyez ce genre de choses par rapport notamment à l'image de l'institution Parlement européen?
Je pense que dans un premier temps, quand même, notre réaction, ça a été la stupeur. On a l'impression, et quand on lit encore les articles de presse ce matin, qu'on est dans un mauvais film. Forcément, on croise tous les collègues dans les couloirs, on voit bien les problématiques encore internes du Parlement européen, que ce soit sur l'augmentation de la transparence, les conflits d'intérêts, où il faut qu'on change notre mode de fonctionnement. Mais cette corruption, à cette échelle-là, on a tous été très clairs dans notre groupe politique quand on a échangé, n'a pas sa place dans notre institution. Et effectivement, vous avez raison de dire que, par ailleurs, ça abîme pour une minorité, plus même qu'une minorité, sur 705 députés, ça abîme toute l'image de l'institution Parlement européen. Pour autant, c'est notamment le message qu'a passé mon président de groupe, Stéphane Séjourné, ça démontre aussi la nécessité de continuer à se battre pour l'état de droit. Parce que si nous n'avions pas une justice indépendante, ce scandale de corruption n'aurait sûrement pas été mis en lumière. Donc ça,
on a tout de suite vu sur les réseaux sociaux même un certain Viktor Orban montrer comme quoi le Parlement européen se prenait comme un défenseur de l'état de droit, la lutte contre la corruption, surtout contre son pays. Et lui, il en a bien profité.
Exactement, il a fait notamment sur les réseaux sociaux plusieurs tweets dans ce sens-là pour écorner l'image de l'institution et au final pour justifier sa propre corruption. C'est pour ça que le message de Stéphane Séjourné était extrêmement important sur cet enjeu-là. Mais pour autant, il ne doit pas faire oublier les failles du Parlement européen. C'est pour ça que notamment plusieurs groupes politiques, dont le mien, dès 2019, proposaient l'instauration d'une autre autorité européenne vraiment indépendante pour travailler sur les conflits d'intérêts. Parce que effectivement, il y a des failles. Nous avons certaines obligations comme publier nos rendez-vous avec des lobbyistes sur le site du Parlement européen quand vous êtes rapporteur ou ce qu'on appelle shadow rapporteur.
On peut rappeler qu'un des accusés, là, une personne qui est mise en cause, est un lobbyiste et ancien député européen.
Tout à fait. Donc on voit cette logique de conflit d'intérêts. Après, il faut véritablement faire la différence entre l'influence et le travail avec les lobbies, qui est nécessaire mais qui se doit d'être encadré pour éviter justement tout conflit d'intérêts. Là, nous sommes sur un cas de corruption, avec aussi des questions d'ingérence étrangère. Donc, chaque chose, il y a des choses qui sont dans le cadre légal, il y a des choses par contre qui sont illégales. Donc, c'est tout ce travail que l'institution elle-même doit mener.
Je ne voudrais pas faire toute l'émission là-dessus, parce que on n'a pas tous les éléments, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres éléments que j'aimerais voir avec vous. Mais il y avait quand même une image, par exemple, hier, il y a le président de la République qui était présent au Qatar. Quand on sait l'affaire, on se pose quand même la question, comment on peut faire la différence s'il y a une ingérence Là, on se dit, mais on a l'impression que c'est que le Parlement qui est concerné, alors que finalement, si l'ingérence, elle est là, c'est pas que pour les questions du Parlement.
Ah bah, bien sûr, la question de l'ingérence étrangère, elle n'est pas que pour notre institution Parlement européen. Elle est là parce que nous sommes un des co-législateurs, mais l'autre co-législateur, c'est effectivement les États membres au sein du Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est de manière globale, transversale, qu'il faut faire ce travail. Vous avez raison de dire que la justice va continuer son travail, mais nous, institutions, nous avons déjà mené le combat au Parlement européen avec la création d'une commission spéciale sur les ingérences qui poursuit son travail. On doit là aussi continuer d'avancer sur ce sujet. Vous évoquez spécifiquement le Qatar parce que c'est la question là du moment avec cette affaire, mais on le voit bien, vous avez rappelé que nous sommes dans un contexte de retour de la guerre sur le continent européen, c'est valable pour la Russie, c'est valable pour la Chine, donc l'objectif c'est pas de se focaliser que sur un pays, mais de manière beaucoup plus transversale.
Alors je ferai tout de suite le lien avec le Qatar, mais sans vouloir, on est en pleine Coupe du Monde. Donc les conditions de travail et inhumaines ont été quand même bien montrées par des organisations humanitaires. Le Parlement a adopté un texte, une directive sur le devoir de vigilance des entreprises pour lutter contre le travail forcé de leurs sous-traitants. Quand et comment ces textes devraient s'appliquer? Parce que là on voit finalement c'est important.
Ah bah complètement, oui, vous avez raison de dire que c'est extrêmement important. Le devoir de vigilance, c'est on est encore dans nos travaux, hein. C'est-à-dire que le texte, à la fois la position du Parlement européen et à la fois la position donc, des États au sein du Conseil, ne sont pas arrêtés, on en plein dans les débats. L'objectif, c'est véritablement, à travers ce texte, de façonner la mondialisation aussi. Et justement, de travailler sur le respect des droits humains, des conditions du travail, aussi sur les questions environnementales. C'est véritablement la responsabilité sociale des entreprises et des entreprises européenne mais extra-européenne et tout au long de la chaîne de valeur. C'est bien évidemment, là, vous avez raison de le souligner dans ce contexte particulier, mais c'est valable dans là aussi, dans le quotidien, parce que comme je le disais...
On pense au travail des Ouïghours, etc.
Exactement. Donc, c'est vraiment cette logique de façonner la mondialisation au travers de ce texte. Donc, nous avons déjà eu et nous avons déjà adopté un rapport d'initiative où nous avons expliqué justement qu'OSAF devait être sur l'entièreté de la chaîne de valeur, que tous les secteurs devaient être concernés, entreprises européennes, extra-européennes, pour avoir cette efficacité. Parce que si on se focalise que sur les entreprises européennes qui ont une activité sur le sol européen, votre exemple le démontre bien, c'est complètement inefficace. Et ce qu'on veut aussi, c'est que ceux qui tirent profit de notre marché intérieur, ceux qui rentrent sur notre marché intérieur, doivent respecter nos règles. Nous mettons en place un cadre de normalisation de plus en plus élevé. Donc, ceux qui tirent bénéfice de notre marché doivent respecter ces règles. Donc, c'est aussi ça l'enjeu du devoir de vigilance.
Ça revient à notre intention. On est quand même le plus grand marché commercial du monde. Et on peut faire aussi le lien maintenant sur les questions environnementales. Là, on sait que l'Union européenne avance beaucoup autour du Green Deal. Il y a quelques jours, un accord a été trouvé pour l'interdiction de l'importation de produits issus de la déforestation. Quels sont donc les produits concernés? Là, on le voit. Donc, là, cette fois-ci, ce sera à nouveau les entreprises hein, qui vont être encadrées. Donc, quels sont les produits et les pays visés par ce texte? Et surtout, comment s'organisera ce contrôle? C'est là qu'on se dit oui, c'est bien d'interdire, mais finalement, comment on vérifie?
Voilà, là, je crois que vous avez posé le problème le plus important. Adopter un texte ou conclure un accord de commerce, c'est jamais une fin en soi, c'est le début du process. Fixer la législation la plus élevée possible, c'est notre rôle, mais il faut aussi la rendre effectif pour justement avoir de vrais changements sur le terrain. C'est valable, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'exemple du devoir de vigilance sur les conditions de travail, mais c'est évidemment extrêmement important sur les questions du changement climatique. Là aussi, avec cet instrument déforestation importée, c'est la même logique. C'est de se dire que quand nous consommons, nous contribuons, dans certains pays, à augmenter la déforestation. Notre rôle, c'est justement de contrôler de manière la plus efficace possible et en ciblant certains secteurs qui ont le plus d'impact, donc notamment le cacao, le bœuf, pour véritablement, là encore, façonner la mondialisation et avoir des changements tangibles dans les territoires. On pense chez nos partenaires, notamment au Brésil, en Amazonie, où il nous faut changer les comportements. Donc l'objectif, c'est d'avoir là aussi une traçabilité tout au long de la chaîne de valeur, travailler avec les acteurs locaux, travailler avec aussi les autorités françaises et européennes pour contrôler l'accès à notre marché. Mais on sait bien que ça va nécessiter des moyens beaucoup plus importants, à la fois européens, mais à la fois dans les pays partenaires et au sein de l'Union européenne, parce que nous sommes un marché intérieur.
On parle même d'avoir la constellation satellitaire, Copernicus, qui pourra servir pour faire ces contrôles.
Exactement, parce qu'il faut justement, et c'est là où on voit que quand on travaille sur Copernicus, mais même on vient d'avoir un nouvel accord sur ce qu'on Iris, la suite aussi, là aussi, c'est effectivement pour étudier véritablement les changements profonds et voir l'impact de nos modes de consommation, en fait.
Alors, si on reste encore sur la thématique environnementale, on a une décision qui a été prise pendant cette session plénière, une décision importante, puisqu'elle permet cette fois-ci l'adoption de ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, qui va donc être adoptée, puisque les institutions, on appelle ça le trilogue, c'est un texte très, très technique, mais en gros, les institutions qui participent au processus ont toutes été réunies et ont trouvé un accord au cours de cette session. Alors, pouvez-vous nous expliquer, c'est une taxe, un prélèvement, c'est quoi la taxe carbone finalement? Elle va toucher quel produit?
Alors déjà, et effectivement, de redire que c'est là aussi ce qui nous anime, c'est vraiment la même logique que le travail sur la déforestation importée et sur le devoir de vigilance. C'est-à-dire que nous avons un marché intérieur ouvert, beaucoup plus ouvert d'ailleurs que celui de nos partenaires. Et c'est aussi ce qui crée ce désamour de nos citoyens vis-à-vis de l'Union européenne. Donc nous devons le protéger. Nous devons le protéger de ceux qui en tirent profit, et notamment les plus grands pollueurs. Donc c'est ça le mécanisme carbone. C'est aussi jouer un rôle de leadership donc dans la mondialisation et façonner des changements chez nos partenaires. Et c'est recréer des conditions de concurrence loyal.
Parce que nous, on paye des quotas, les entreprises payent des quotas par carbone en Europe.
Exactement. Sauf que ceux qui rentrent sur notre marché, ben on le voit bien, c'est pas la même logique, ils sont pas soumis aux mêmes règles, alors que nous adoptons, ben vous l'avez dit, le Green Deal, le paquet Fit for 55 en bon français. Ce texte du mécanisme carbone, ça fait 20 ans que la France le porte, donc on voit déjà la maturation politique qu'il a fallu pour convaincre nos partenaires, pour travailler aussi sur la compatibilité de ce texte avec les règles internationales, spécifiquement les droits de l'OMC, parce que l'objectif, c'était pas d'avoir derrière des mesures de rétorsion de nos partenaires.
Une forme de protectionnisme.
Exactement, qui estime que c'est une forme de protectionnisme, alors que ce n'est pas ça. C'est justement jouer notre rôle de leadership, c'est créer des conditions de concurrence loyale, et en fait, c'est pas du protectionnisme. Pourquoi ? Parce que c'est pas discriminatoire. C'est-à-dire que ça sera tous les produits, notamment sur les engrais, sur l'acier, sur les produits qui vraiment ont un plus grand impact environnemental. Justement, on cible véritablement les choses, l'engrais, l'aluminium, pour pouvoir changer les modes de production et les modes de consommation. Donc, c'est pas, véritablement pas du protectionnisme, parce qu'aucun État partenaire n'est ciblé. Donc c'est ça qui permet aussi la compatibilité avec les règles de droit international.
Donc on voit que ça avance sur les questions environnementales, mais on voit aussi que la guerre en Ukraine a ses conséquences, notamment énergétiques. Nous tous, on le voit bien. En novembre, vous avez fait voter une résolution demandant à la Commission européenne et aux États membres de l'Union de préparer une sortie coordonnée du traité sur la charte de l'énergie. Alors là, je pense qu'on a lâché tous nos auditeurs. C'est quoi cette charte de l'énergie? On n'imagine pas une charte de l'énergie qu'il faut en sortir pour se protéger. Pourquoi il faut sortir de cette charte?
Effectivement, pour autant, je suis surprise, parce que quand je me suis saisie du sujet au Parlement européen, dès l'arrivée de mon mandat, c'est vrai qu'on parlait peu de ce traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité international avec d'autres pays partenaires, qui est un vieux traité qui a été adopté justement au moment où le monde était très différent, où il y avait le bloc soviétique. C'était justement pour favoriser les investissements à l'époque et protéger les investissements dans l'énergie fossile. On voit bien, l'objectif maintenant, c'est de sortir des investissements des énergies fossiles pour atteindre nos objectifs de neutralité climatique. Donc ce traité, il est incohérent par rapport justement au monde tel qu'il est aujourd'hui et à nos objectifs. Donc cette incompatibilité avec l'accord de Paris, avec la loi climat, quand on veut être crédible, on sort. Et en fait, pourquoi porter une sortie de l'Union européenne? Parce qu'on en parle beaucoup plus depuis que l'Espagne, la France, l'Allemagne ont annoncé de manière individuelle leur sortie. Vous avez dans ce traité ce qu'on appelle une sunset clause. C'est-à-dire que pendant 20 ans, même si vous en êtes sorti, il vous est applicable. Donc concrètement, ça pourrait être que Gazprom, une entreprise, pourrait attaquer un État signataires de ce traité, donc tous les États de l'Union européenne, pour dire ben, la législation que vous allez prendre, donc une législation qui serait donc ambitieuse pour sortir du fossile, ben, nuit à mes intérêts. Donc c'est aussi le droit des États à réguler par eux-mêmes dont il est question. Et si on sort de manière coordonnée l'entièreté de l'Union européenne, vous êtes dans un rapport de force qui vous permet de négocier la fin de cette sunset clause et qui permet d'éviter aussi tous les contentieux intra-européens. Donc c'est pour ça que c'est capital et je suis fière que le Parlement européen, je peux vous dire, c'était pas gagné dans les négociations. Le PPE voulait une modernisation de ce traité. Nous on dit bah non, parce que justement le cap il est pas le bon, il faut en sortir tout de suite.
Ça aurait été pas très logique d'avoir le Green Deal et à côté continuer à promener les fossiles.
Donc on s'est battu avec ma collègue verte allemande Anna Cavazzini pour y arriver. Je suis très fière de notre résultat. Et de la confiance de mon groupe politique pour aller dans ce sens-là.
Alors on va avancer sur d'autres sujets qui sont que tout le monde entend parler, hein, notamment Emmanuel Macron était parti aux États-Unis pour ça. Avec Trump, on avait connu l'American First, hein, tout le monde s'en souvient, qu'on avait redécouvert les droits de douane. Avec Biden, on a un CHIPS Act et on a une Inflation Reduction Act. Et cette fois-ci, c'est des subventions qui sont versées et des aides d'État qui peuvent être vues comme une forme de concurrence déloyale. En tant que vice-présidente de la Commission du commerce international, que préconisez-vous? Que peut faire l'Union européenne pour lutter contre ce genre d'action d'État souverain?
Déjà, l'Union européenne, elle doit continuer le réveil. Vous l'avez dit dans votre introduction, depuis la dernière fois où je suis venue, il y a eu le choc du Covid, il y a la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences. L'Union européenne, elle doit véritablement défendre ses ambitions, les valeurs universelles auxquelles elle croit et ses intérêts. Les États-Unis, vous avez dit Donald Trump, America First, les taxes, etc. Mais il ne faut pas oublier que de manière globale, même avec Barack Obama et même avec Biden, les États-Unis resteront dans cette logique de défendre leurs intérêts. Je veux dire, c'est normal, c'est leur rôle. Mais nous, nous devons défendre les nôtres. Donc je pense qu'il faut le réveil du choc de nos dépendances, il a eu lieu pendant la pandémie. On a bien vu, on avait des problématiques d'approvisionnement pour les masques, on voit bien toutes les dérives qu'il y a eu de cette mondialisation qu'on disait heureuse. Donc il faut changer nos chaînes d'approvisionnement, il faut travailler sur une politique industrielle beaucoup plus forte. Donc on a avancé, vous parliez du CHIPS Act, on travaille aussi sur la question de l'approvisionnement sur les matières premières. Donc, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et là, en fait, l'action du président Biden, au travers de cet Inflation Reduction Act, il doit encore plus nous réveiller. Parce que le risque, c'est qu'effectivement, au vu de l'augmentation du prix de l'énergie chez nous, du fait de ces subventions qu'ils seront versées aux États-Unis, c'est que des entreprises européennes quittent notre territoire pour aller s'installer aux États-Unis, qui est un gros marché. Donc nous, on doit continuer le travail, comme l'a fait le président de la République, sur la voie diplomatique, parce que ce voyage, ce qu'il a permis, c'est de peut-être négocier des exemptions à l'image des règles qui seront celles entre le Canada et les États-Unis. Donc ça, c'est important, la voie diplomatique, oui, mais pas seulement. Moi, je préconise depuis plusieurs semaines, je l'ai déjà dit dans la presse, qu'il faut lancer un contentieux à l'Organisation mondiale du commerce. Parce que tout le monde le dit, le commissaire au commerce, Valdis Dombrovskis, le dit, c'est contraire aux règles de l'OMC. Donc, si c'est contraire, il ne suffit pas que de le dire. Il faut lancer un panel. Parce que derrière, c'est aussi des éléments qui vous permettront de négocier justement les choses. Et puis, il faut avancer sur notre POP politique d'investissement, d'industrie, de concurrence.
On parle d'un fonds souverain européen, je crois, ouais.
Exactement.
C'est possible.
C'est possible. Les chefs d'État et de gouvernement vont en parler, notamment aujourd'hui, demain, au Conseil européen. Donc c'est capital. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, l'a déjà évoqué. Nous, on le pousse depuis très longtemps. Et je dirais que oui, c'est possible parce que rappelez-vous, notamment au moment du choc du Covid, l'adoption du plan de relance. Au début, on nous disait impossible. Il est bien réalité. Il a bien permis justement de relancer, déjà de soutenir nos économies les plus vulnérables pendant la pandémie. Et il permet la relance. Et bien là, ça doit être la même chose. On doit véritablement matérialiser ce réveil européen.
Alors, un réveil européen qu'on peut encore regarder par rapport à la Chine. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Union européenne, donc on a quand même une dépendance, on l'a vu, hein, sur les masques. Pourtant, les tensions géopolitiques avec la Chine ont désormais d'importantes répercussions commerciales, comme c'est le cas entre la Chine et la Lituanie, lorsque celle-ci s'est rapprochée de Taïwan. On voit bien qu'il y a des tensions entre la Chine et Taïwan. Vous négociez actuellement, je retente ce mot, en trilogue, donc avec les autres institutions européennes, un texte sur la coercition, si je ne me trompe pas, sur comment réagir par rapport à ce genre d'attitude. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Effectivement, nous sommes en pleine négociation. Après l'émission, je file dans ces fameux trilogues, les temps de négociation entre les différentes institutions pour aboutir au texte le plus ambitieux possible. On parlait à l'instant des États-Unis. On fait face à une concurrence qui n'est pas loyale. Avec la Chine, c'est un autre niveau. C'est effectivement l'utilisation de la coercition. Qu'est-ce que ça veut dire, la coercition ? Ça veut dire qu'on cherche à vous contraindre. On cherche à limiter votre liberté, votre souveraineté dans votre choix. Vous avez pris le bon exemple. La Lituanie, elle a voulu renforcer ses relations avec Taïwan, notamment sur la question des semi-conducteurs. Et la réaction de la Chine, c'était de dire « Très bien, vous voulez vous rapprocher de Taïwan ? Ben moi, je vais vous fermer d'autres marchés. Je vais vous mettre des mesures de rétorsion. » Donc c'est ça, contraindre. Essayer d'influencer votre politique, vos choix souverains. Donc nous, on dit, l'Union européenne n'a pas à ce stade d'instrument juridique qui lui permette de lutter contre la coercition. Un instrument qui soit dissuasif.
En fait, la Lituanie se retrouve seule. C'est ça.
Alors, elle ne s'est pas retrouvée seule. L'Union européenne a été vraiment soudée en soutien à la Lituanie. Tous les États ont dit justement, mais ça, c'est pas possible. Et c'est tout l'objet des négociations, c'est-à-dire que c'est une coercition à l'égard de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Union européenne. C'est ça sur lequel on est en train de travailler en ce moment, parce qu'il doit y avoir une vraie solidarité européenne quand on attaque un État européen. On attaque toute l'Union européenne. C'est ça, la solidarité en acte.
Et la lutte contre la coercition, et on terminera là-dessus, ce serait quoi concrètement ? On fait quoi ?
C'est avoir des instruments de dissuasion. C'est-à-dire que si un État, alors là on parle de la Chine, mais c'est valable pour d'autres, il y a la question des sanctions extraterritoriales américaines, hein, dont on débat aussi dans nos négociations, il faut pouvoir répliquer en fait de manière plus forte, mettre des contre-mesures. C'est-à-dire dire, ok, vous voulez augmenter les tensions ou lancer une guerre commerciale, mais nous avons les moyens de taper là où ça fait encore plus mal, en quelque sorte. Parce que si vous n'avez pas, on l'évoquait avec les Américains juste avant, des moyens de négociation, au final, vous êtes dans une position de faiblesse. La diplomatie est de plus en plus question de rapport de force. Et l'Union européenne, pour être crédible, pour être efficace, elle doit renforcer son arsenal juridique et l'utiliser. On parlait, quand on évoquait déforestation, de la mise en œuvre. Là aussi, se doter d'instruments, c'est bien. Les utiliser, c'est encore mieux.
Ben merci, Madame Védrenne, pour toutes ces explications. Sur un sujet, j'avoue, le commerce international, je ne pense pas que ce soit le premier sujet d'intérêt sur l'Union européenne, mais on voit toutes les conséquences et les répercussions qu'il a.
Pour autant, c'est vrai qu'on parle beaucoup politique commerciale quand on débat des accords de commerce. Moi, je le vois bien dans ma délégation, hein, sur les accords de commerce, tout le monde a un avis. Quand on parle de ces instruments de défense, là, effectivement, on rentre dans une technicité encore plus délicate. Donc, les gens s'invasent peu. Mais pourtant, c'est ces instruments qui sont les plus importants pour défendre nos intérêts.
Alors, donc, merci à vous pour cette participation et merci à tous pour votre écoute. On se retrouve donc cette fois-ci l'année prochaine en vous souhaitant à tous de passer d'agréables fêtes de fin d'année. À bientôt.